C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadraoui.
Bonjour à tous.
Guillermo Guiz, Albert Algout, Daniel Morin, et notre invité, Monsieur Luc Ferry.
Bravo.
Merci, cher maître, de venir à ce micro nous présenter une série de bandes dessinées. Ça s'appelle La Sagesse des Mythes. Et il y en a combien d'ailleurs de volumes, j'en suis
pas. Il y en aura 30. Au final, il y en aura 30. En gros, tous les mythes grecs, enfin, en tout cas, les plus grands sont là, oui.
Voilà. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je ne les ai pas tous lus, mais j'espère.
Ah, c'est pas possible. Vous avez bien fait d'être honnête parce qu'ils sont pas tous sortis. Donc,
voilà. Ça se serait vu.
On en a lu deux, hein.
Quelquefois, c'est utile.
J'espère, Père Albert, que vous avez bien compris pourquoi Luc Ferry était notre invité.
Mais enfin, non, Guy, vous le savez très bien. Vous le savez d'autant mieux que tout à l'heure, dans le bureau de la bande originale.
Qu'est-ce que j'ai encore
quelques
dit?
Secondes. Ouais. Je vous ai rarement vu aussi furieusement l'avenue d'un invité. Je rapporte vos propos. Mais non, d'une chamelle en rut, vous ai-je entendu crier. Je vous avais dit qu'il était hors de question de recevoir Jules Ferry. Ok. Avant, j'ai trouvé très classe de recevoir un philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Mais depuis que j'ai chopé mes enfants en train de reluquer en ricanant les pages de sa BD intitulée « Héraclès, la genèse du héros », où Amphitryon ramène furieusement Alcmène, cette boule de vis, après que Zeus ait fait pareil en se faisant passer.
Toi, tu l'as lu. Voilà.
Oui, avec beaucoup d'attention.
Plusieurs fois,
avec beaucoup d'attention.
Surtout cette page.
Peut-être besoin de la décolleuse à papier peint d'air. Ramène furieusement Alcmène cette boule de vis après que Zeus ait fait pareil en se faisant passer pour le même Amphitryon. Là, et c'est Nagui qui parle, hein. Attention,
oui,
c'est pas moi.
Ni Amphitryon.
Là, a dit Nagui, je me suis dit, stop, moi vivant, Brian Ferry ne mettra pas un pied dans le studio de la bande originale.
More than this.
Alors, pour une fois, Nagui, je vous ai approuvé, moi-même, tout en rectifiant le prénom de notre invité, Jean-Luc. Je vous ai alors expliqué qu'en lisant l'autre album intitulé « Percer la gorgone Médée », que j'ai là sous les doigts, eh bien, moi aussi, j'ai été heurté.
Par quoi?
Pour ne pas dire écœuré.
Qu'est-ce qui s'est passé?
En découvrant les scènes licencieuses qui, sous couvert d'initiation à la mythologie,
il y en a qu'une.
Autant d'incitation à la lubricité.
Il n'y a qu'une seule.
Il n'y en a qu'une seule, tu vas voir. Entre autres exemples, on apprend que des amours de Zeus avec Danaé naquit Persée, ce qui plus tard n'empêchera pas Zeus de coucher avec Alcmène, qui elle-même descend de Persée. Ce qui veut dire, vous m'avez bien suivi?
Oui,
oui, c'est vrai.
Que ce Zeus encourage non seulement les coucheries adultérines, mais en plus ça donne aux amours consanguines et incestueuses. Voilà.
C'est pas nouveau, hein?
Avec tout ça, ouais, c'est pas nouveau pour vous, bien sûr.
Non, voilà. C'est pas nouveau. C'est pas la mythologie, c'est pas nouveau.
Voilà, c'est
pas
une c'est propre. C'est des millions d'auditeurs. Avec tout ça, je me rends compte que je n'ai pas fait le pitch de
pitch.
Ce texte. Je suis en train de me gourer.
Non, ça c'est votre contrat d'aujourd'hui. Non, lisez pas tout.
Alors le pitch, ben écoutez.
Allez à l'improvisade.
La sagesse des mythes, c'est des mythes où il est question de sagesse.
Élise Husset, c'était hier, donc voilà. Je sais pas.
Nagui s'est ravisé. Et alors il m'a dit, la mythologie, c'est le dada de Leïla Kadour.
C'est vrai.
En tant qu'ancienne prof de grec, elle va être à son affaire. Mm-hmm. Je vais la laisser parler d'Eros et Thanatos, des Topoi, de Letos, du film Problemos et des Bonbons Mentos. Pour une fois.
Et des Balis Argos.
Pour une fois, voilà.
C'est
pour une fois que cette malheureuse a l'occasion de bosser dans cette émission, ça me changera. C'est pour ça que j'ai été troublé dans mes textes tout à l'heure. Voilà ce qu'a dit Nagui. Quant à moi, monsieur le ministre, s'il vous plaît, un peu de respect de recevoir un ministre, un ancien ministre, mais il a droit au titre.
Il faut vous appeler monsieur ministre à vie?
Ah non, c'est seulement dans l'administration, mais enfin, c'est les préfets et les recteurs, mais sinon, absolument pas.
Mais je suis recteur.
Toujours rigoler, mais vous êtes recteur de quoi?
De ma camionnette, de ma paroisse.
C'est ça,
de ma paroisse.
Vous êtes rectiligne.
Donc, monsieur le ministre, mon saint ministère, consistant à guider moi aussi philosophiquement et spirituellement des jeunes en recherche, jeunes garçons, je leur fais découvrir la mythologie grecque de façon sportive. Ainsi, en compagnie d'un moine grec, Freddy Mercuros, dans ma camionnette bâchée cuir clouté noir immatriculée, vous savez, je leur enseigne la lutte gréco-romaine et surtout le pancras, l'ancêtre de la boxe, le corps dénudé et oint d'huile de vidange. D'ailleurs, je dois y aller ce matin, c'est pour ça que j'étais un peu embrouillé dans tous mes pancras. Il y a un entraînement et c'est moi qui fais le pechang ball.
Merci.
Donc, bonne émission.
Merci beaucoup.
La bande originale, Nagui.
sur France Inter.
Donc cette collection, alors vous me dites qu'il y a 30 qui
il y en aura 30.
Vous, ouais. vous bavez. il y en aura 30 pour bien, oui, parce qu'il les comprend. Et encore, il vient de comprendre celle de Delisucet d'hier. Très compliqué si c'est cette émission.
Tu l'avais très mal pris, Elisucet hier.
Luc Ferry, c'est vous qui avez initié cette série chez Glénat.
Oui.
Vous leur avez dit, il y a quand même des histoires passionnantes autour de la mythologie et il faut les rendre accessibles à tous par l'intermédiaire de la bande dessinée.
C'est pas l'idée d'accessibilité à tous, parce que la mythologie grecque peut se lire, les enfants la lisent dès le CM1, CM2 et même quelquefois avant. Non, c'est pas ça. L'avantage de la BD, c'est que ça permet de vous faire vraiment rentrer dans le visuel, si je puis dire, de ce qu'était le monde grec de l'époque. Donc j'ai des dessinateurs absolument formidables, notamment Didier Poli.
C'est pas tous les mêmes, c'est vrai que
il en faut une dizaine parce que c'est très très long à faire. Vous savez,
il y a Giovanni Lorusso, il y a Annabelle,
Le maître d'œuvre, c'est Didier Poli, qui est un type absolument formidable. Quand il se met à dessiner, c'est éblouissant à voir. Et on a fait un énorme travail d'iconographie en reprenant sur les vases grecs et sur les murs de l'époque, c'est au 8e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y a pas une seule erreur. C'est que vous rentrez vraiment dans le monde grec de l'époque, que ce soit les armes, les bateaux, les chars, les vêtements, les bijoux, les couverts, les lits, l'intérieur des maisons.
Il fallait que la référence historique corresponde.
Oui, c'est ça que je voulais. Et de la même manière pour les textes.
Enfin, historique, mythologique.
Oui, mythologique. Et je suis toujours reparti des premières versions des textes grecs, c'est 8e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'on appelle vraiment la Grèce archaïque, parce que les premières versions sont de loin les plus belles. Et il n'y a pas d'erreur. Par exemple, vous parliez de Argos tout à l'heure.
Ouais.
Eh bien, je ne vais pas citer le nom, ce serait désagréable, mais il y a quelqu'un de très connu dans la mythologie grecque qui confond, par exemple, l'architecte des Argonautes, qui s'appelle Argos, qui a fait le bateau des Argonautes. C'est pour ça que le bateau s'appelle Argos, qui en grec veut dire le rapide. Il le confond avec un monstre qui s'appelle Argos. Oui, tout ça, c'est des gens qui habitent dans l'Argolide. Mais un monstre qui s'appelle Argos et qui a 100 yeux, ce monstre. Il y en a 50 qui dorment et puis 50 qui veillent quand il est endormi. Et c'est ce qui a donné la fameuse balise Argos, parce qu'elle veille tout le temps. Et donc, il confond les deux Argos, par exemple. Et dans tous les livres que j'ai lus, à part Jean-Pierre Vernant, il y a des erreurs. Voilà. Et même Jean-Pierre Vernant, que j'adore, qui est le plus grand, quelquefois...
Des approximations, discuter, voilà. Ouais.
Mais c'est le meilleur, il est formidable.
Un immense helléniste.
C'est de loin le meilleur. C'est le plus grand. Voilà. Sinon, même des livres, quelquefois des références, c'est bourré d'erreurs. Et donc, j'ai voulu que ce soit parfait.
Vous êtes allé traduire, vous êtes allé chercher quoi?
Oui,
des
évidemment. Bah oui, enfin, traduire. Vous savez, moi, j'ai fait 15 ans de grec, mais je suis pas très. Je le lis pas comme je.
Avant.
On lit une langue vivante, comme je lis l'allemand. Bon. Mais j'ai fait mes études en Allemagne. Mais en même temps, vous travaillez avec les éditions les bilingues.
Les belles lettres.
Ou les éditions anglaises et allemandes, qui sont souvent les meilleures. Voilà, bien sûr. Et donc, c'est pas pour faire cuisse, c'est simplement parce que les premières versions sont les plus belles, elles sont les plus fortes. Alors, évidemment, c'est aussi les plus dures. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de cruauté.
Alors voilà, énormément. Voilà.
Alors, mais justement. Ça, on a quand même... On n'a pas supprimé, mais on a fait un petit peu comme dans Psychose. C'est le modèle que j'avais en tête, vous savez, le film de Hitchcock, là, qui
l'ellipse.
Et qui est assez. Mais en même temps, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du tout gore. C'est-à-dire qu'on suggère quand même beaucoup. Enfin, de temps en temps, on voit.
Il y a une tête coupée. De temps en temps, il y a une jolie
tête de la Gorgone, on peut pas la couper. Voilà.
Il y a une jolie, des jolies filles.
Il y a quelques jolies filles.
Mais pourquoi on va pas les hommes nus dans la bande dessinée?
Zeus, c'est gaulé.
Si, Zeus aussi. Oh là là, tout de suite féministe. Non, il y a les hommes aussi.
Féministe, c'est pas une insulte.
Ah, tu vas de dos.
C'est pas une insulte, un féministe.
Ça peut l'être. Mais il faut. Non, il y a aussi des hommes. Zeus est nu très souvent quand il fait.
On le voit nu de dos, elle voulait le voir de face.
Frontal.
Ah non, mais ça, on voit pas.
D'égalité, vous savez, face à la nudité.
Ni pour les femmes, ni pour les hommes, on ne voit pas. Et pourtant, j'ai une école catholique.
On ne voit pas les parties, pour être clair.
Ah oui?
Comme vous. Oui, elle m'a fait inquiet. Parce qu'il y a une école catholique qui a rapporté la BD, parce que alors c'était, je crois, à Nice, une école catholique. Mais alors vraiment, c'était quand même c'était les cathos de choc avec les bougies là, parce que c'était
les cathos de choc avec les bougies.
C'était vraiment très très lisible. Vraiment, on a fait attention à ça, mais c'est vrai qu'on peut pas raconter la théogonie d'Hésiode ou l'Odyssée et l'Iliade sans évoquer quand même le sexe et le sang. C'est très présent.
Alors, juste une autre tournure d'esprit bien particulière, c'est pas simplement des histoires de la mythologie qui sont dessinées, qui sont racontées, oui. Mais il y a aussi un enseignement, une réflexion faite à la fin de chaque oui. légende.
Oui, et ça, c'est un peu l'héritage de Vernant, justement, qui avait commencé ce travail-là, c'est raconter la signification philosophique des mythes, qui est extrêmement profonde, parce que l'idée...
Parce qu'il y a toujours un enseignement à tirer, en tout cas, de ces histoires.
Oui, tous, ils ont pratiquement tous la même structure...
C'est le principe de la mythologie?
Oui, c'est le principe de la mythologie, c'est pour ça que c'est la matrice de la philosophie, c'est ça qui m'intéresse. Et l'idée qui domine toute la mythologie grecque et qu'on va retrouver dans la philosophie grecque, c'est une idée absolument géniale, c'est l'idée que la vie bonne pour les mortels, d'ailleurs l'opposition mortel-immortel est omniprésente dans la mythologie, la vie bonne pour les mortels, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. Et le problème, c'est que il y a constamment des monstres qui sont des héritiers des premiers dieux, les titans, il y a constamment des monstres qui renaissent, comme Typhon par exemple, ou comme ceux qu'affronte Héraclès, l'hydre de Lerne, le lion de Némée, etc., sont des monstres, des résurgences des forces initiales qui veulent détruire le cosmos. Et si le cosmos, l'ordre du monde, l'ordre harmonieux du monde était détruit, l'ordre que Zeus a créé, alors évidemment les humains perdraient le sens de leur vie puisqu'ils ne pourraient pas se mettre en harmonie avec une harmonie qui aurait disparu. C'est ça le pitch, comme disait notre ami, le pitch de la mythologie grecque, pour parler comme Ardisson. C'est le pitch de la mythologie grecque, c'est le fil conducteur. Et constamment, Zeus fabrique des héros pour aller, si je puis dire, casser la gueule aux monstres qui menacent l'harmonie cosmique. Donc c'est très très profond comme idée. Par exemple, dans l'écologie contemporaine, pratiquement toute la philosophie de l'écologie contemporaine se réfère à la mythologie grecque et à la philosophie grecque, parce que ils disent, voilà, Prométhée va donner le feu et les arts, les techniques aux êtres humains, et du coup, l'espèce humaine voilà, va devenir la seule espèce vivante capable de détruire l'ordre cosmique installé par Zeus. Et donc, seuls les humains, les lions, les éléphants, les ours, ils peuvent pas détruire la planète. Les humains peuvent le faire parce qu'on leur a donné les techniques et le feu. Et les techniques, ça va aller jusqu'à la bombe atomique, jusqu'à la troisième révolution industrielle aujourd'hui. Et donc, cette idée que l'espèce humaine est la seule qui puisse détruire la planète, c'est une idée qu'on va retrouver constamment dans la philosophie contemporaine et dans l'écologie contemporaine, par exemple, et pas seulement.
Mais l'espèce humaine, et on le voit dans ces deux albums, est aussi l'homme est une marionnette, puisque c'est les dieux qui décident de tout, qui considèrent qu'il faut déclencher une guerre à tel endroit, qu'il faut... C'est aussi ramener l'homme à l'infiniment petit dans son importance, dans ses prises de décision aussi.
Il y a une réflexion extrêmement profonde, en effet, dans la mythologie grecque, et là aussi Vernant l'avait très bien compris, sur le destin, sur ce que... Le destin, c'est ce qui vous tombe dessus. Prenez le cas d'Œdipe, par exemple. Œdipe, un personnage que presque tout le monde connaît à cause de la vulgarisation par Freud, qui d'ailleurs n'y a jamais rien compris, c'est pas du tout le complexe d'Œdipe qui est central dans l'affaire d'Œdipe. Ce qui est central dans l'affaire d'Œdipe, c'est que Œdipe est un type très bien, ça va être un très bon roi, c'est un très bon père de famille, c'est quelqu'un de très courageux, mais son père, Laios, a violé un de ses camarades qui s'appelait Chrysippe dans son enfance. Et là, on voit, enfin, c'est un peu, pour parler vulgairement, quand les parents boivent, les enfants trinquent. Et en fait, Œdipe va payer, c'est ça le destin, les fautes commises par les générations qui le précèdent. Et donc cette idée que les êtres humains ne sont pas libres, c'est le cœur de la tragédie, ça nous tombe dessus. On y peut... Et c'est très puissant parce que dans nos vies, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. D'abord, ni sa naissance, ni sa mort, la plupart du temps, mais le fait que le cancer vous tombe dessus, vous n'y pouvez rien. Il y a toutes sortes de... Et tout ce que les parents nous donnent, la plupart du temps, vous n'y pouvez rien.
Mais quel enseignement alors vous tirez
Que la liberté est en contact. C'est-à-dire l'idée qu'on va se révolter. C'est ça justement Antigone, qui est un personnage vraiment merveilleux. Antigone va se révolter contre le destin. D'ailleurs, du coup, Antigone aura 1000 interprétations, y compris d'ailleurs féministes, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Mais elle se révolte contre la loi des hommes et pas...
Au nom de la loi des dieux et de la famille.
Il y a la loi des dieux et la loi des hommes, elle distingue.
Voilà, exactement. Voilà. Et elle dit à son oncle, le roi de Thèbes, donc à Créon, qui dit, voilà, Créon a un neveu qui s'appelle Polynice et qui a trahi la cité. Donc en tant que roi de Thèbes, il dit... Ah non, il faut pas l'enterrer. Bon, il faut le jeter aux chiens et aux oiseaux, comme on dit en grec. Et donc, et ces conflits-là.
Luc Ferry, on le voit déjà avec le name dropping, tous ces noms, tous ces personnages,
toutes ces célébrités qui sont jamais venues dans Taratata.
On peut rapidement perdre.
Ah, c'est faux.
Nos auditeurs, il faut faire juste attention à ce que l'on dit, ce qu'on raconte. Ce que je voulais juste.
Il y a trop de noms. Vous avez raison.
Ramener ça à une efficacité finalement de ces histoires, parce que on voit aussi bien dans les jeux vidéo que dans les séries télé ou dans les fictions, dans les films, que ce sont finalement des histoires extrêmement fortes avec des pouvoirs, avec des monstres, avec des conflits, avec des règlements de compte qui couchent ensemble ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est le prisme de la philosophie vient se mêler de quelque chose d'extrêmement spectaculaire. La mythologie, mais c'est très spectaculaire.
Voilà, vous y trouvez tout. La plus grande question philosophique, c'est qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Donc la réponse, c'est la première grande réponse, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. C'est ce que fait Ulysse quand il rejoint Ithaque. Hein, il rejoint
ça. Ne recommencez pas.
Non. Ulysse. Alors là, je pense que
j'entends bien, mais c'est pas parce que Ulysse a fait dans Long Voyage. C'est pas parce que Oedipe a l'album d'NTM.
Non, mais vous incitez du bel et au passage, je dis pour les jeunes gens.
Ah, vous l'avez noté,
je vais casser sa phrase.
C'est plus compliqué, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne voudrais pas perdre ceux qui nous écoutent par tous ces noms-là en disant finalement, je ne les connais pas, je ne sais pas trop qui est qui, donc.
Oui, ça serait l'effet inverse. Exactement. La crainte avec la mythologie, c'est se dire, il y a tellement de personnages, je ne comprends rien, qui est le frère de qui, laquelle est la famille à laquelle il appartient.
Compliqué, c'est pour ça que j'ai mis des petits schémas pour qu'on s'y perde. Mais c'est vrai que c'est comme dans les romans d'Elroy, il y a des milliers de personnages et au bout d'un moment, il faut. Franchement, moi j'ai travaillé ça pendant plus de 30 ans, mais il faut un psychiatre pour être aidé.
Pour revenir à Percé et à Méduse.
Pour lire le truc, il faut un psychiatre avec soi.
Je vais vous faire une autre phrase. Ça fait 2800 ans qu'on enseigne ça partout dans le monde, donc il y a une raison. Et c'est un peu comme la Bible. En fait, les deux piliers de la civilisation occidentale, c'est Athènes et Jérusalem, c'est pas pour rien. Vous allez à Bogota, vous allez à Mexico, vous allez à Londres, vous allez à New York, vous allez à Pékin, on enseigne l'histoire d'Ulysse, donc c'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelque chose dedans.
Alors justement, si on parle d'Ulysse, on peut parler de tous les monstres qu'il a rencontrés pendant son périple de retour, et là, pour revenir à la question de Nagui, avec le lien avec la philosophie, ou le lien aussi avec l'actualité, c'est de voir comment, dans la mythologie grecque, tous ces monstres-là représentent une crainte, parce que le monstre dans une société, c'est pas n'importe quoi, on y projette tout ce qu'on a été sans doute, ou tout ce qu'on doute de devenir, et donc là, à travers cette série de bandes dessinées, j'imagine qu'il y a aussi quelque chose de très actuel, finalement.
Oui, il y a d'abord, vous y trouvez tous les grands problèmes de la vie humaine. Donc le mensonge, l'amour, la guerre, la trahison, la peur, les monstres en effet dont vous parlez qui sont effrayants et qui sont toujours des résurgences, encore une fois, des forces de destruction initiale, des forces chaotiques.
Oui, il y a les femmes aussi dans la mythologie grecque, sont souvent considérées comme des monstres.
Il y a les femmes qui occupent une place extrêmement importante. C'est pas un hasard si Athéna, qui est la fille préférée de Zeus, est à la fois la déesse de l'intelligence et de la guerre. Contrairement à Mars, qui est un crétin, Mars c'est la guerre brutale, Mars c'est Ares.
Bon. Faites attention, s'il nous écoute, ça peut être gros bâchis.
On parle des gros bâchis, faites attention. Jamais ça m'a invité, il viendra pas.
Athéna, c'est la stratégie.
Non mais Mars, ça donnait le mois de Mars, Mars c'est le dieu de la guerre. Athéna, c'est la déesse de l'intelligence et de la guerre, et c'est la guerre intelligente, la guerre un peu comme aux échecs. Et Athéna, c'est pas un hasard si c'est une femme. Les femmes occupent, d'ailleurs comme dans les évangiles, les femmes occupent une place extrêmement importante.
Je rappelle cette série donc s'appelle La Sagesse des Mythes. Alors, 30 à être publiés. Pour l'instant, il y en a combien de publiés ? Une dizaine ?
Même pas, il y en a 8 qui sont sortis pour l'instant.
D'accord. Et c'est extrêmement bien dessiné.
C'est une merveille, oui.
Je tiens à le préciser, c'est...
Il faut saluer les dessinateurs.
C'est une très belle bande dessinée, on en reparlera tout à l'heure avec notre spécialiste bande dessinée. Mais d'abord, Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Luc Ferry.
Elles ont gazouillé, puisque vous êtes souvent Luc Ferry sur Twitter. Et quand je pense à vous, je pense à votre tweet concernant la tenue de Philippe Poutou lors du débat des 11 candidats. Avant le premier tour, je vais expliquer, avant le premier tour de la présidentielle, vous parlez de sa tenue débraillée, je cite, avec Philippe Poutou débraillé en Marcel pour représenter les ouvriers. Pas étonnant qu'ils aillent massivement chez Le Pen. Alors, la première partie de la phrase pourrait donner un sourire, la deuxième partie a suscité un peu l'ire, pour reprendre un vocabulaire.
Ah non, j'ai reçu des menaces de mort même. Non, c'est plus que l'ire, les gens sont devenus fous, complètement.
Alors, la question que je voulais vous poser justement, est-ce que c'était Je sais bien que Twitter, c'est là où les choses se passent, où il faut être présent.
En 140 caractères
pour le philosophe que vous êtes, qui a cette vision comme
non,
ça pour
bien
développer.
Oui. Il y avait une très bonne tribune de Jaffray dans le Figaro. 56% d'ouvriers chez Marine Le Pen. 56% d'ouvriers chez Marine Le Pen.
Non, enfin, c'est pas dû
alors qu'elle est bourgeoise, elle est très riche, elle est propre sur elle, mais évidemment que si.
C'est pas dû à
toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est évidemment lié très largement à ça. Dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, moi j'ai écrit un livre sur l'histoire de la bohème, et notamment de la bohème ouvrière, par exemple la bohème des buveurs d'eau, qui est une bohème très très intéressante, qui est une bohème ouvrière. Dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, l'aspiration des ouvriers qui se révoltent contre le système capitaliste, et moi j'ai enseigné très longtemps à Lyon, je connais très bien l'histoire des canuts lyonnais par exemple, c'est passionnante. L'aspiration des ouvriers
qui travaillaient la soie, les
ouvriers tisserands qu'on appelait des canuts parce qu'ils tissaient avec des aiguilles qui s'appelaient des cannes à l'époque et qui se révoltent contre la machine Jacquard, c'est une histoire passionnante. L'aspiration des ouvriers et l'aspiration des grands révolutionnaires, c'était l'aspiration à la culture, c'était l'aspiration à l'éducation. C'est pas parce qu'on refuse de serrer la main à quelqu'un et qu'on refuse d'être sur la photo de famille qu'on est un grand révolutionnaire.
Mais
quand on se retrouve à 6 ou quand on se retrouve à 1%, on doit s'interroger quand même sur ce qu'on représente.
Alors, il faut juste rappeler que...
Et pour moi, c'est la question. Pardon, mais c'est peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est la question.
Philippe Boutou a refusé d'être sur la photo des 11 candidats et a refusé de serrer les mains.
De serrer la main. Il a refusé de serrer la main. Il a refusé d'être la photo. Il a passé les trois quarts de l'émission le dos tourné aux gens. Il s'est conduit pas bien. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est impoli qu'on est révolutionnaire. C'est ça que j'ai voulu dire. Je pense que l'impolitesse et la révolution, ça n'a rien à faire ensemble. Et je trouve que Mélenchon est admirable. J'ai pas voté pour lui. Je partage pas ses idées. Mais j'ai grande estime pour lui parce que c'est justement quelqu'un qui, même quand il engueule Marine Le Pen, se conduit convenablement. Il met la cravate, ou en tout cas, il met une veste, un vêtement convenable. Et je tiens à la politesse, cher ami. Je pense que c'est très important. La politesse, c'est le premier pas de la morale. Et quelquefois, c'est même plus important que la morale parce que c'est ce qui permet la civilisation.
Vous ne parlez pas comme ça, là.
Je n'ai pas besoin d'être sermonné
en plus au montage comme fait Ardisson.
J'ai pas besoin d'être sermonné sur la politesse, Luc Ferry. J'ai pas l'impression de vous manquer de respect. Je disais simplement, tous les arguments que vous venez de développer, pourquoi ne pas avoir dit de Philippe Poutou, ce n'est pas respectueux de ne pas serrer la main.
Parce que j'avais 140 signes.
Ah,
ben oui, évidemment.
Pas de bol. Pour le coup, parce que...
C'était pas un ouvrage de 800 pages.
Non, mais c'est, ce qui était drôle, ce qui était finalement... Ah oui, non, ça m'échappe pas. Mais ce qui était drôle, en revanche,
Luc Ferry... Ça mérite 800 pages.
Non, ben justement, ça mérite 140 signes pour que ça donne le débat qu'on a maintenant et que les gens puissent réfléchir sur 3 secondes.
Moi, ce que j'ai trouvé drôle, personnellement,
Luc Ferry... Qu'on fait d'être impoli n'est pas un révolutionnaire. Voilà. Et que Mélenchon est poli et révolutionnaire d'une certaine manière.
D'accord. Alors, si vous voulez bien me laisser terminer, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que vous parlez de tenue vestimentaire à un moment où ce débat était complètement enflammé par des histoires de costumes. Et je me suis dit que là, vous n'étiez pas fendu d'un tweet se concernant. Voilà. C'est juste ce qui m'a trouvé un peu étonnant.
Mais ça n'a rien d'étonnant. J'ai voté pour Fillon, donc je ne vois pas pourquoi je l'allumerais. Donc, à moins d'être débile mental, on n'assassine pas. C'est le type pour lequel on vote.
Ce qui est étonnant. Mais
le respect, vous parlez du respect.
Mais non, mais surtout de l'élévation. Surtout, on ne peut pas avoir un peu plus de recul que de s'arrêter. Parce que j'imagine, Luc Ferry, deux secondes. J'imagine si vous étiez supporter de Luc Fillon. François Fillon.
Il n'a pas mis 500 signatures, c'est pour ça qu'on a vite oublié.
Vous voyez les prénoms, j'avais raison de le signaler.
J'imagine que l'affaire, entre guillemets, des costumes a dû vous énerver en disant « Soyons au-dessus de ça, il a bien droit de recevoir des cadeaux, on s'en fout des costumes. » On a entendu tous ceux qui le soutenaient en disant
«
Intéressons-nous au programme et pas uniquement à cet entre-gens et à ces cadeaux donnés. Les costumes rendus, il a rendu des costumes, mais c'est pas les bons costumes, c'est encore une nouvelle affaire. Arrêtez de l'embêter avec ça, et ainsi de suite. » J'imagine que vous avez dû penser ça de votre côté. Pourquoi vous, entre guillemets, mettre au même niveau que ceux à qui vous faites des reproches d'une affaire de costume?
Non, ça n'a rien à voir.
En jugeant une chemise et des
masques. Ça n'a strictement aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Vous pouvez détester.
Ce qui est important, c'est un programme.
Mais
pourquoi allumer Poutou, comme vous le dites, qui représente qu'un pour cent des voix, in fine, qui à l'époque n'était pas une grosse menace? Justement, je m'intéresse.
Mais pourquoi pas? Mais enfin, on est libre, non? On est encore en démocratie, on a pris la Bastille, donc on a parfaitement le droit d'un tweet, dire voilà, celui qui se prend pour un révolutionnaire parce qu'il arrive en t-shirt sans veste et parce qu'il ne sert pas la main des gens et qui refuse d'être sur la photo, passe complètement à côté du problème. Il ne se rend pas compte que la classe ouvrière a envie d'être représentée par des gens qui sont corrects. Voilà.
Et c'est pas
étonnant.
Et
c'est pas étonnant.
Et ben,
je tiens de toute la, le travail que j'ai fait pendant 40 ans sur l'histoire du monde ouvrier.
Non, mais le monde d'aujourd'hui, le monde ouvrier.
Mais le monde d'aujourd'hui, je vous donne les statistiques. 56% vote pour Le Pen, c'est pas pour rien.
Et ben, voilà. Et ben, justement, posez-vous la question de savoir pourquoi les,
posez-vous la question de savoir pourquoi les ouvriers se sentent représentés par le Front National aujourd'hui.
Je pense que ça n'a rien à voir avec la tenue vestimentaire. Ça a à voir avec les conditions économiques de vie.
Vous passez complètement à côté de la,
mais si vous êtes tous l'amour pour je crois que ça va pas être possible.
La question de la démocratie,
c'est toi et moi en représentation.
Mais votez pour Poutou si vous voulez, mais dites-le. Moi, je suis honnête, je dis que je vote pour Fillon. Mais vous votez pour Poutou, mais dites-le.
Dites-le. Et
vous avez le droit.
Et je ne vous en veux pas.
Parlez pas en même temps.
C'est bête de dire ça.
Allez, faites-vous un Poutou.
La question de la démocratie, c'est la question de la représentation. Vous ne pouvez pas.
Je pense que ça n'a pas à voir avec les vêtements. Ça a à voir avec les idées.
La démocratie n'a rien à voir avec la représentation. C'est parfait.
Vous pensez vraiment, Luc Ferry, que le monde ouvrier préfère être représenté par François Fillon qui ne paye pas ses costumes?
Mais j'ai jamais dit que le monde ouvrier était représenté par François Fillon. Est-ce que vous avez pris ça?
Vous parlez de quelqu'un qui est bien habillé.
Mais ça n'a rien à voir.
On préfère être représenté par quelqu'un qui est bien habillé, mais qui vraisemblablement
ne comprenez rien. Mais c'est votre
droit de ne pas payer ses costumes.
Vous êtes et continuez à ne rien comprendre. Voilà. Vous ne comprenez strictement rien au fond de la démocratie, qui est une question de représentation. Et je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que en effet, et je le regrette, ça me désole, 56% des ouvriers se sentent représentés par Marine Le Pen et pas par Poutou. Voilà. Et donc, je dis simplement que les gens devraient se poser la question.
Mais c'est pas nouveau.
Quelle est la question de la représentation? Et si vous considérez que la démocratie n'a rien à voir avec la représentation, c'est votre droit.
Je pense, je pense, si je peux me permettre de soutenir ma camarade de jeu.
Ah ben vous êtes là pour ça.
Voyez, nous on fonctionne pas comme ça, Luc Ferry.
Je suis pas toujours écouté.
Moi, je ne soutiens pas Nagui si je suis pas d'accord avec lui.
Je fonctionne.
Je veux juste dire ma phrase.
Je réclame la liberté.
Je pense que Georges Marchais avait des costumes.
Eh ben, qui vient de le dire.
Avait costume et cravate, et ça n'empêchait pas certains électeurs du Parti communiste de partir vers le Front National, quelle que soit la tenue vestimentaire de Jean-Marie Le Pen à l'époque ou de.
Il n'avait pas toujours la bonne cravate.
Je veux dire, la présidentielle, c'est pas la Fashion Week non plus.
Je suis désolé de vous contredire, mais à l'époque de Georges Marchais, le Front National n'existait pratiquement pas, représentait rien, et les ouvriers étaient au Parti communiste. Voilà. Et donc aujourd'hui, les ouvriers sont passés du Parti communiste au Front National très largement.
Vous êtes en train de nous expliquer que tout ça est dû à une mode vestimentaire.
Non, je dis que c'est dû à la question de la représentation.
Comme analyse
non, mais
politique.
vous faites l'imbécile, faites exprès de pas comprendre. Je dis que
faites
c'est lié.
Attention quand même, Luc Ferry, à me garder un minimum de respect parce que
vous étiez une imbécile. Ouais. Et vous faites l'imbécile exprès. Vous faites l'imbécile exprès. C'est pas du tout ça que je dis. En 140 signes, je dis simplement qu'il faut s'interroger sur la question de la représentation. Quand on représente 1% des ouvriers et qu'on prétend être le Parti ouvrier, c'est qu'il y a un problème. Voilà.
Ouais,
et donc
je prétends
que la politesse et l'éducation, ça fait partie de la représentation.
Moi, je trouve ça dangereux de faire un lien de cause à effet.
Vous trouvez ça,
entre
moi, je trouve
une tenue
c'est
vestimentaire
voilà.
Et
c'est
un
pas une
vote
tenue
pour le
vestimentaire, c'était un symbole de la question de la politesse. Donc ne faites pas semblant de pas comprendre ce que je dis. Je dis que la politesse, c'est très important. Et que si on est impoli, on représente pas la classe ouvrière.
Très bien. Tout est dit.
Moi, je suis à côté de lui. Un mot de toi et je saute.
Mais
t'es pas candidat à la présidence de la République.
Non, puis surtout avec tes fringues, moi je serais toi, je dirais rien aujourd'hui.
Et puis j'ai pas l'impression d'avoir perdu sur le terrain des idées.
Voici l'humeur de Guillermo Gris.
Ah, j'adore. C'est chouette. En pleine bonne ambiance, c'est aussi cool. Ça va les amis, vous allez bien? Tout le monde est un peu chaud là. C'est chouette. Je sais qu'il faut que je m'exprime publiquement sur la question. Donc oui, je vais couper court à la rumeur. Il m'arrive de lire le Figaro, madame. Alors, voilà, François Michel Sardou, on a la virilité qu'on peut. Eh bien, bien m'en prend justement parce que figurez-vous, hier j'ai lu dans ce magazine un article qui pourrait parfaitement révolutionner la vie de cette équipe ici, autour de cette table. Eh, absolument. Et je vous connais avec cette espèce de vivacité d'esprit qu'on vous envie dans la plupart des cimetières de France. Vous allez me dire, ça parle de quoi? Eh bien, d'un livre qui va bientôt sortir en France qui s'appelle Plan B ou Comment retrouver des forces face à l'adversité de Sheryl Sandberg, qui est la directrice générale de Facebook. Alors Facebook, pour nos auditeurs les moins en phase avec le concept de 21e siècle, c'est une espèce de feuille bleue comme ça qui apparaît sur un ordinateur personnel quand vous allez sur une sorte de plateforme internationale qu'on appelle World Wide Web. En gros, c'est un truc virtuel. Enfin, ça permet de. Enfin, voilà. Bref, tant pis, je vais prendre le risque d'être excluant avec l'essentiel de nos
parts de marché. Ça permet d'avoir des amis, des vrais.
Tout ce que vous devez savoir de Facebook, c'est que c'est une très grosse boîte, l'équivalent de Radio France, mais avec des gens heureux dedans. Et justement, c'est un peu le propos du livre. Après un drame personnel assez terrible, la numéro 2 de Facebook a décidé d'écrire cet ouvrage dont le message le plus original est « N'hésitez jamais à partager vos difficultés personnelles sur votre lieu de travail ». Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est tellement ça qu'il nous faut dans la bande originale, nous ouvrir les uns aux autres, quand on pue tellement tous la misère émotionnelle ici, autour de cette table, en coulisses, derrière le piano, tout le monde a tous à gagner, à se confier plus les uns aux autres. Nagui, par exemple, qui est toujours si tendu, il est toujours si tendu en arrivant, parce que son personnel de maison ceci, son personnel de maison cela, et j'aurais jamais dû acheter une Lamborghini, boîte de vitesse de merde, etc. Laisser j'en cuir, ça me fait transpirer le périnée, et moi, c'est moi qui aurais dû reprendre la matinale à la place de Cohen, ce traître, etc.
La seule vérité.
Je peux comprendre, on a tous nos emmerdes, etc. Mais au lieu de parler tout seul dans votre bureau comme Valéry Giscard d'Estaing, ouvrez-vous à nous. On est une équipe. Pareil, Leïla. Je sais que vous avez des problèmes avec votre vie personnelle parce que depuis votre rupture avec l'auteur Chilo, Austro, Bulgaro, Moldavo, Tataro, Breton, Illich, Horst, Mendev, Petrosh, Milinkovic, de Flock, de Flic, de Bilbonek. Tout ça pour une bête histoire de désaccord finalement sous le rejet en fin de phrase du subjonctif dans le roman traditionnel bédouin. Enfin voilà, la goutte d'eau, le truc, la dispute de trop. Je vous entends arriver ici en disant, oh, j'en peux plus de la bande originale. Ils sont tous plus limités les uns que les autres, vive ma vie de chroniqueur TPMP, etc. Et c'est moi qui aurais dû reprendre la matinée à la place de Cohen, c'est traître. Eh bien, c'est vrai. Ouvrez-vous à nous, Leïla. Pareil pour Albert Algou, même combat, lui aussi il a ses ennuis. Parfois il a du mal avec ses différents personnages. Là, j'ai dents, il fait des confusions, quoi. Le soir, il traîne dans les backrooms déguisé en maréchal Ganache. Le jour, il va fleurir le soldat inconnu dans son costume de François. Et ça te brise un homme à lynchage, finalement. Parlez-nous, Albert.
Exprimez-vous tout à l'heure.
Exactement. Pareil pour Daniel Morin, je dis pas qu'on va pouvoir résoudre tous vos problèmes d'hygiène. Je dis juste. Quand vous ouvrons un peu à nous, on peut donner un coup de main, quoi. Qui a un gel douche aux fruits, qui a un gant de toilette, qui a un coton-tige. Mais pour nous, c'est 5 minutes au monop, quoi. Mais il faut qu'on le sache. Il faut en parler pour ça, communiquer. Merci. Alors, quant à moi, j'ai décidé aussi J'ai décidé de vous parler de mes difficultés personnelles, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus simplement mes collègues, vous êtes surtout des connaissances. Je voulais vous dire que ça me fait mal au bide de jamais avoir été accepté dans cette équipe, quoi. Alors que j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que vous me demandiez, Nagui. J'ai fait vos 6 mois de chronique gratuite. Leïla, je voulais trouver ce code civil bosnien, là, en peau de chevrette. Vous voyez, Albert, je l'ai faite, cette tournée des bois chelous là, dans votre camionnette bâchée cuir qui fait chambre froide pour touristes russes et salle de squash pour escaper de la fistinière. Et vous, Daniel, combien de fois je dois vous sortir de cellules de dégrisement pour mériter un peu d'amitié? Combien de fois? Et pourtant, ici, je serai toujours l'étranger. Mais je continue à croire que ce serait bien qu'on se parle plus, les amis. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume. La bande originale. Luc Ferry est venu nous présenter donc La Sagesse des Mythes, une série de bandes dessinées qui raconte les grandes histoires de la mythologie grecque, tout ça chez Glénat.
Et avec une très jolie veste, merci.
Et une cravate. J'en ai pris une là encore, à chaque fois.
Et une cravate. Nous allons mettre en musique quelques moments de votre vie, quelques dates clés, comme par exemple en 1966, lorsque vous écoutez du Bach.
Pas mal.
Vous avez grandi en écoutant de la musique classique à la maison?
Oui.
C'était le choix de vos parents?
Mon père était un très bon violoncelliste et ma maman était aussi, enfin elle était assez extraordinaire puisqu'elle avait l'oreille absolue, ce qui est très rare. Et moi j'ai joué du violoncelle très longtemps mais pas bien, donc j'ai commencé tard et puis j'ai jamais été très... Et c'est des instruments qui pardonnent pas la médiocrité.
Oui, violon et violoncelle sont les deux terrible. Instruments sur lesquels la note est à rechercher avec l'oreille et le doigté et elle n'est pas repérable simplement d'une touche.
Même si vous jouez bien mais pas très bien, c'est moche. Et donc,
ça ne pardonne pas la médiocrité.
Voilà, donc j'ai abandonné, j'ai prêté mon violoncelle pendant des années à un très, très grand violoncelliste qui l'a joué dans le monde entier, donc ça m'a fait plaisir qu'il soit joué par quelqu'un de bien. Mais ça, c'est quand même, c'est quand même une merveille.
C'est vous là qui jouez?
Oui, quand j'étais petit, oui.
Vous débrouillez là, hein?
Dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous écoutez cette musique? Est-ce que c'est une... vous pouvez faire quelque chose d'autre que de l'écouter, ou au contraire, c'est de la méditation?
Non, on peut rien faire d'autre. Quand la musique est vraiment belle, je trouve que c'est pas comme la peinture, ça vous enveloppe vraiment. Et la musique, c'est vraiment l'art le plus génial à mes yeux, parce que c'est comme si on racontait une histoire à un enfant. Il y a un début, il y a un développement, il y a une fin. On voit bien que dedans, danse, ça a du sens et en même temps, il n'y a pas de mots. C'est ça le paradoxe de la musique, c'est qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de mots et pourtant ça parle. Ça parle sans image et sans mots. Mendelssohn disait musique, romance sans parole. Voilà. Et ça, on voit bien que chez Bach, c'est des prières, par exemple, c'est évident. Quand on écoute un prélude de Chopin, on voit bien que c'est aussi, que ça parle de nostalgie et de tristesse. Bon.
Est-ce que cette évidence-là n'est pas simplement votre traduction? Parce que peut-être que chacun a son interprétation de ce que cela peut raconter comme histoire.
Ben c'est la preuve de l'universalité de la musique.
Je suis d'accord, justement. Mais là vous y voyez des prières, là où d'autres, peut-être en écoutant ça, verraient une histoire romantique ou une tristesse ou un abandon
On peut
familial.
Bien sûr projeter, c'est le fameux test du Rorschach, on peut toujours projeter, dans la mesure où il n'y a pas d'image et pas de mots, on peut projeter sur la musique, mais comme le disait notre ami, ce qui est très frappant, c'est que c'est quand même le langage le plus universel qui soit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de connaître une langue pour qu'on comprendre la musique, ça traverse les frontières et ça traverse les siècles. C'est ça qui est fascinant. Quand on écoute ça, j'ai honte de parler dessus. C'est vraiment, je suis sûr que ça parle quasiment à tout le monde, quoi. D'ailleurs, on l'a pris comme musique de pub dans certaines publicités.
Souvent. Votre, ou ça, c'est pour éviter de payer les droits aussi.
Ah, le producteur qui parle.
Il revient aux vraies choses.
On pourrait faire une pub sur lui.
Pieds sur terre.
On pourrait faire un album BD.
On parle de violoncelle et de l'éducation de vos parents. Votre papa était fou d'automobile, donc plutôt dans la mécanique.
Il était pilote de course. D'abord, il était un des plus grands pilotes avant-garde. Et puis, il a construit une quinzaine de voitures de course.
De ses mains.
Ses mains, pas entièrement, parce que les carrossiers, il faut des carrossiers, puis les moteurs, il faut les... Mais enfin, c'est lui qui les dessinait, qui les concevait et qui les pilotait, voilà. Donc, il en reste encore une, d'ailleurs, que je conduis de temps en temps, que je vais conduire à Angoulême, sur le circuit d'Angoulême en septembre.
Donc, c'est une voiture maintenant de collection.
Ah oui, ce sont des voitures de collection. D'ailleurs, j'ai pas pu l'acheter parce que j'ai pas assez d'argent pour. Elle était vendue l'année dernière et elle a été vendue très très cher, beaucoup trop cher pour que je puisse l'acheter. Mais il en a construit une quinzaine et donc j'ai passé mon enfance dans les... Il y avait, je sais pas, 300 Bugatti, Maserati à la maison, mais c'était des voitures qui valaient plus rien après-guerre, ça valait pas un clou. On roulait dans des Bugatti, on allait à l'école en Bugatti, mais c'est des voitures qui valaient rien, strictement rien.
Et aujourd'hui, ça vaut des millions.
Aujourd'hui, ça vaut une très belle Bugatti. Oui, ça peut atteindre jusqu'à 7-8 millions d'euros. Oui.
Ah ouais. Fallait garder la voiture de papa.
Il y a même une roue ou un moteur.
Quand tu penses qu'il n'y a même pas de ceinture de sécurité.
En plus, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ceinture de sécurité et tu n'es pas obligé d'en mettre une. C'est-à-dire que c'est.
Et puis, c'est pas. On respecte. De temps en temps, je conduis ça.
Et c'est agréable à conduire ou pas?
C'est très, très amusant. Moi, je suis essayeur dans une très belle revue de voitures de course qui s'appelle Carla F, qui est une revue magnifique. Et de temps en temps, on me prête des voitures comme ça. On m'a prêté une Jaguar Type D, celle qui a gagné le Mans en 55. Ça vaut 20 millions d'euros. Donc, quand on me la prête, je fais attention quand même.
Tu te mets pas en double fil pour aller chercher la baguette.
Et surtout, tu te mets pas en Marcel. Hein,
un peu de respect.
T'as 20 millions pour la voiture.
Je fais un poutou à celui qui me l'a prêté.
En 1982, vous écoutiez Barbara. Hein,
t'as vu? Il fallait la caser, celle-là.
T'es le meilleur.
Une nuit,
ah, ça, j'adore,
oui. Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part,
c'est magnifique,
surgit un aigle noir.
C'est un Tina Turner, on
l'aigle
aime tous,
noir de Barbara. Alors il y a toujours un débat pour savoir si elle parle réellement de son rapport enfance avec son papa et éventuellement d'un rapport incestueux.
Je crois pas une seconde
qu'il aurait pu avoir avec elle.
Très mythologie grecque alors. Oui.
Mais en tout cas, c'est une chanson forte, sublime, très émouvante. Oui. Vous écoutiez Barbara dans ces années 82, cette année 82 où vous devenez l'un des plus jeunes professeurs d'université de France à enseigner la philosophie sans avoir un cursus traditionnel.
Pas le bac.
Non, j'ai passé en candidat libre en 68, donc
sans cagne.
Pour pas avoir le bac, il fallait faire la demande, oui.
Moi, je l'ai eu cette année-là, on me l'a donné. Moi.
C'est vrai. Ah oui, on doit avoir à peu près le même âge. C'est horrible à voir. Mais
72 ans.
Voilà.
On cherchait où était l'élégance, elle est là.
Ouais, c'est quand tu finis par.
Donc pas de cagne, pas de normal sup.
Non, ni cagne ni normal sup. J'ai fait mes études tout seul. Mes parents n'ont jamais fait d'études, donc à partir de la troisième, je fais mes études tout seul par le CNTE, le CNED, à l'époque s'appelait le CNTE.
Et quel était votre moteur ?
Bugatti, on a dit.
Non, mon moteur. Le CNED, c'est formidable parce qu'on recevait les paquets de devoirs et les cours. On avait 15 jours pour les faire.
Oui, mais Luc Ferry, il faut être motivé. Vous vouliez atteindre quoi comme but? Parce que faire des études sans avoir un cadre familial qui vous y pousse, sans avoir.
Le cadre familial m'y poussait justement parce que mes parents n'avaient pas fait d'études. Mon père était génial, c'est un vrai génie dans son domaine, mais il avait pas. Et puis je vous disais, un très bon violoncelliste, donc il avait quand même la passion pour la vraie culture. Bon, mais il n'avait pas fait d'études. Ma mère non plus à cause de la guerre. Et justement à cause de ça, ils ont voulu que leurs enfants fassent les études les moins utiles qui soient, si je puis dire, les moins mercantiles, les moins vénales qui soient. Donc latin, grec, allemand, ce qui servait à rien, quoi.
L'anglais, à l'allemand, ça peut servir.
Non,
pas tous les 40 ans.
Ça aurait pu servir avant, mais là, je suis né en 51. Après, non, ça ne servait pas grand-chose. Et donc, c'était l'idée d'entrer dans la vraie culture. Et pour eux, la vraie culture, comme ils ne l'avaient pas eue, c'était la culture désintéressée. Donc, c'était le latin et le grec, voilà. Et ça, moi, je leur en suis infiniment reconnaissant parce que ça m'a aidé toute ma vie. Puis, à 15 ans, j'ai commencé à découvrir la critique de la raison pure de Kant. Et comme je n'y comprenais absolument rien... Ça a commencé par une phrase qui facilite pas la conversation, qui est « Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?» Donc déjà, quand tu lis ça, tu te dis « Bon, je vais peut-être sauter la première page. » Mais non, je me suis dit « Il faut comprendre. » Ça m'énervait de pas comprendre. Je voyais que c'était ni de la littérature, ni de la science. Et donc, je me suis investi là-dedans et ça a été très tôt une vraie vocation.
Pour obtenir votre agrég en 75 et commencer votre carrière de prof à l'école normale d'Arras, en 81, vous avez décroché l'agrég de sciences
politiques.
Et à propos de politique, justement, en 2002.
Ouais. Ah, ça c'est, j'adore les moments musicaux de Schubert. Ouais. Transcription violoncelle aussi. C'est pas mal ça aussi, hein.
C'est Micha Maïski, les moments musicaux violoncelle de Schubert. Mais dans ces années-là, vous êtes en 2002 ministre.
Oui.
Est-ce qu'un ministre se...
Vous avez été mon ministre.
Ouais. C'est vrai.
J'étais enseignante en 2003.
Quand il était à l'éducation.
si, justement, vous voyez, comme quoi.
S'il avait su, il l'aurait vu.
Ça veut dire que ça n'a pas marché. Hein.
C'est ce que je voulais dire. Non, j'ai continué à être désagréable.
Est-ce qu'on écoute de la musique au ministère?
Non, on n'a pas le temps. C'est un métier de chiotte. En plus, j'avais 4 ministères. Vous savez, j'avais la recherche, les universités.
La jeunesse, l'éducation nationale. Voilà.
Et la jeunesse, c'est terrible parce que c'était passionnant. Mais quand l'éducation nationale se met en vacances au mois de fin juin, les ennuis commence les centres de vacances avec tous les pépins qui commencent. Non, on n'a pas le temps. Je me levais à 5h du matin et je me couchais à 2h du matin. Ça a été, c'est pas absolument passionnant, je ne regrette pas du tout, mais c'est vraiment très très difficile. Oui. Et j'ai eu le plus gros ministère. Oui, c'est physiquement, j'étais épuisé. Oui. C'est très très fatigant. Oui. Non, c'est un vrai. Si on veut le faire bien, c'est un vrai boulot. Et moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était que les mots m'apprennent à lire et écrire. C'était quand même ma base. C'est que
vous rejoignez le président élu en disant ça.
Oui. Ah ben, Macron, il a exactement mon programme. Les dédoublements de CP, c'est moi qui ai instauré ça. Donc là, je suis ravi qu'il reprenne ça. D'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter, pardon. Donc, j'ai pas écrit un livre de 800 pages non plus. Mais enfin, j'ai dit que c'était vraiment le meilleur programme.
Mauvaise, quand même, Luc Ferry. On va être gentil,
j'ai compris que vous votiez pour Pouton, c'est bien.
Pas du tout.
J'ai compris.
Pas le vendredi, les amis.
Marcel Pouton. Si je peux me permettre, vous l'avez mal lu.
Oui, mais c'est pas grave.
Non, mais vous avez le droit.
Allez, revenons à la bande dessinée avec Jean-Christophe Augier. Merci Jean-Christophe de venir à notre micro. Vous êtes journaliste spécialiste de bande dessinée sur France Info.
Quelle belle radio, ça.
Oui, absolument.
Vous êtes sympathique.
Comment se porte la bande dessinée en France?
Mais alors, bien si on considère la production, d'abord la qualité des albums, il se passe pas un mois sans qu'on ait de vraies pépites qui sortent, bien si on considère le nombre de publications, puisqu'il y a à peu près 5000 nouveautés par an, bien si on considère le marché, puisqu'il se vend à peu près 40 millions de bandes dessinées, le gâteau a beau grossir un tout petit peu chaque année, comme il est partagé en plus grand nombre de personnes, chacun une part moins grande. Donc si on regarde du côté des auteurs, on tire un peu la tronche.
Est-ce qu'il y a toujours les incontournables, les Astérix, les Schtroumpfs, les Spirou, les Tintin, je dis ça en regardant Albert Algou, les Titeuf,
Je... Oui, et je dirais presque malheureusement. C'est peut-être la première fois que je le dis comme ça. Aussi,
bah oui, dis donc. Aussi,
mais presque malheureusement, parce que il faudrait pas que ces chaînes
fassent trop d'ombre aux autres auteurs.
Fassent trop d'ombre aux auteurs.
C'est comme si tu pouvais manger que dans des gros restaurants estampillés qu'on connaît tous, que tu retrouves dans le monde entier, et pas dans des petits restos.
C'est mais en même temps, dans la littérature,
il y a moins de Balzac, moins de Zola, parce que il faudrait faire la place à des petits auteurs.
J'ai cru que c'est Marché Ganache.
Mais on parle moins souvent de Balzac et de Zola que des auteurs contemporains les plus en vue. Ils font plus la une des revues spécialisées. Bon, les
peut-être
auteurs
chez vous, mais chez moi, on parle très souvent de Balzac.
Et chez moi aussi.
On sait qu'avec Albert, nous avons un tatinologue plus qu'un tatinophile encore.
Est-ce que les bandes dessinées sont utilisées dans l'éducation, justement? Est-ce que les professeurs font référence à des bandes dessinées?
De plus en plus.
Parce que là, on est avec la mythologie, on est aussi dans l'enseignement.
De plus en plus, au point d'ailleurs que, par exemple, et monsieur le ministre le sait sans doute, il y a un CRDP, c'est-à-dire un centre de recherche pédagogique spécialisé bandes dessinées à Poitiers, qui est centre ressources. Donc, il y a effectivement une diffusion réelle dans l'éducation via ce médium, parce que la bande dessinée n'est pas un genre, c'est un médium où on peut tout faire, de la bande dessinée d'auteurs prestigieux, parfois ardus, mais aussi des choses qui sont plus faciles d'accès, qui ne cherchent pas forcément à être une voie spécifique, authentique, comme au cinéma, en littérature, mais qui sont des outils intéressants.
Alors la bande dessinée est faite de textes et de dessins, comme la musique est faite de paroles et de musique. On sait que généralement c'est d'abord les mélodies qui accrochent et qui font vendre. Est-ce que dans la bande dessinée c'est plutôt le dessin qui attire l'œil avant l'histoire ? Même si l'histoire est importante, très évidemment,
le premier accès qu'on a à la bande dessinée est celui du trait. Est-ce que c'est séduisant ou c'est pas séduisant? Après, c'est une éducation. Pour arriver à apprécier la musique, comme on vient de l'évoquer, par exemple, il faut être passé par la petite musique de nuit, il faut être passé par des choses comme ça. Pour arriver à aimer une bande dessinée ambitieuse, exigeante, qui porte des voix spécifiques graphiquement...
Vous êtes venu avec des cartons de bande dessinée?
J'ai des cadeaux, après. Tout ça pour dire que faut avoir commencé par Tintin, Spirou, avant d'arriver à Christophe Blain, avant d'arriver à Bilal, avant d'arriver...
Donc vous avez pu jeter un œil, parce que là, dans cette collection, ce ne sont jamais les mêmes dessinateurs.
Non, c'est effectivement, il y a une famille. D'abord, il y a une scénariste qui travaille avec vous et qui
Clotilde
est toujours
Bruno,
la même.
Qui est géniale, oui. Et Didier et Pauly, qui est maître d'œuvre, c'est-à-dire qui harmonise...
Qui est directeur artistique,
oui. Ah oui, il harmonise les visages, par exemple. Il faut qu'on reconnaisse un personnage d'une BD à l'autre.
Je vais faire un anachronisme, mais enfin, il faut une Bible pour qu'effectivement on reconnaisse d'un album à l'autre les personnages. Et puis, c'est très pédago, vous apprendrez comment garder son calme olympien.
Oui, là-dedans. Absolument, ou la pomme de la discorde.
Ou un choc de titan, comme on vient d'en avoir ici. Et puis ça marche, visiblement, puisqu'il y en a 130 000 qui sont vendus déjà de cette collection.
Ah bah, bravo,
sur 6 albums.
6 albums, je crois que c'est 6
qui sont vendus. On n'en sort rien, tout le monde parle.
130 000. Je répétais que sur 6 albums, 130 000 ont été vendus.
Oui, ça a été un carton. Je suis ravi. Mais vous savez, Glénat, en plus, c'est un éditeur génial parce qu'il a créé sa boîte quand il avait 15 ans. Et c'est le plus
À Grenoble.
Et c'est le plus grand éditeur de BD indépendant au monde. C'est quand même une réussite formidable.
Ah oui, il a commencé dans une petite piole tout seul.
Il a fait signer Bretéché dans la cuisine de sa maman.
Et la bande dessinée donc française se porte mieux que la bande dessinée anglaise, anglo-saxonne ou étrangère? C'est un art français. Est-ce qu'il y a une bande dessinée italienne, espagnole?
Il y a le manga, il y a trois pôles au monde.
Il y a les États-Unis, les comics. N'oublions pas quand même tous les Batman et compagnie.
Charlie Brown.
Entre autres. Et puis il y a le Japon, tous les mangas, qui est un pôle très important. Et il y a bande dessinée européenne, essentiellement franco-belge. On va ajouter quand même que la bande dessinée se retrouve sur toute la planète. Vous avez une bande dessinée argentine extraordinaire, vous avez une bande dessinée mexicaine fabuleuse, vous avez toute la planète dans les pays nordiques, partout. Pour en venir à si vous voulez, à ça, c'est-à-dire, on vient de parler de cette bande dessinée, de la connaissance, du savoir. C'est un domaine qui est en expansion, effectivement, dans le.
Il y a la BD Tech des savoirs, la super collection.
Je vous en ai apporté. Alors, d'abord, il y a des revues. Ici, on a déjà parlé de la revue dessinée, et avec sa petite sœur qui s'appelle Topo, qui est pour les moins de 20 ans. Moi, je pense que, par exemple, pour vous, c'est-à-dire pour le public qui est dans ce studio.
Pas le public, voilà, c'est ça.
Absolument.
C'est Casterman.
Topo, c'est indépendant, c'est les gens de la revue dessinée, mais effectivement, ce ne sont que l'actualité ou des reportages en bande dessinée, et c'est de très grande qualité.
Mais c'est très mal dessiné, hein, par contre.
Pas du tout.
Il voit rien.
Au contraire. C'est l'exigence de Topo.
Ah oui, pardon, je regardais l'autre. C'est très très bien dessiné, Topo. C'est remarquable. Hein.
Alors, Leïla parlait de la petite BD Tech des savoirs. C'est le que sais-je de la bande dessinée.
On en offre souvent, là.
Voilà. Qui s'adresse à
ça dépend des sujets, quelquefois, c'est un peu chiant.
À public. De quel âge?
Vous avez raison. C'est inégal. Mais vous avez dit très belles choses.
Ça s'adresse à un public de quel âge?
Le féminisme. Peut-être l'offrir à monsieur le ministre. Les situationnistes, on peut peut-être vous l'offrir.
Ouais,
là.
Ça marche.
Voilà. Et puis, à chaque fois, il y a des personnes référentes qui sont très sérieusement impliquées dans la manière de l'écrire et de très bons dessinateurs. On parlait d'Internet tout à l'heure. Je viens de le lire. Il est super.
Jean-Christophe, ça s'adresse à un public de quel âge, cette collection?
Ah bah, s'il a donné à Guillermo, c'est jusqu'à 10 ans, non?
Ado adulte. Adolescent.
Voilà.
Il y a le conflit israélo-palestinien qui vient de sortir.
Et
là, tu te fends la gueule, il est très bien.
Moi, j'ai commencé, c'est pas mal.
Et que j'ai lu avant de venir, parce que je voulais absolument pouvoir éventuellement mettre un petit label dessus. Eh bien, oui. Ah. C'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est historiquement super. Fondé, c'est par ailleurs, ça pose beaucoup de questions plutôt que ça n'apporte des réponses, puisque les réponses, si on en avait, mes deux préférés dans toute la collection, c'est le nouvel Hollywood de Jean-Baptiste Torret de Bruno. Et ça, si on aime le cinéma, c'est extraordinaire. Et puis le minimalisme, parce que là...
Bien on a vu ça, le minimalisme.
De Christian Rosset et de Jörn Gerner. Franchement, c'est extraordinaire.
Et je vais le prendre. Il me l'offre pas, mais je vais le prendre.
C'est pour qui le veut. Et en l'occurrence, pour dire que le label Merci, quel que soit... La qualité intrinsèque des albums, d'abord, ils sont validés par un historien, philosophe, ministre de l'éducation.
Oui, il y a du monde qui travaille sur la série.
Donc, en l'occurrence, effectivement, c'est sans doute bien. Mais plus que ça, qu'un ancien ministre de l'éducation valide la bande dessinée, c'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'on a quand même dépassé ce cap qui était est-ce que la BD c'est sérieux, est-ce que la BD on peut la
donner, est-ce que c'est un art,
est-ce que c'est un art tout ça. Et le fait que des noms valident la chose, celui qui marche le mieux cette petite BD Tech, c'est Hubert Reeves avec Daniel Cazenave sur l'univers, au point qu'il lance une nouvelle collection.
Il est bien dessiné.
Voilà. Et puis les droits de l'homme, parce qu'il ne faut pas oublier. Et j'ajoute une chose, c'est que ça se retrouve partout. Vous connaissez, vous l'avez reçu ici, Jules, le dessinateur, qui va passer, marcher sur vos plates-bandes dessinées évidemment, puisqu'il prépare 50...
France Info. Oui.
Il prépare 50 nuances de grec
sur Arte.
Jean-Christophe Augier est venu. Les journées, je rappelle, spécialistes de bande dessinée sur France Info. Il y assure une chronique chaque dimanche depuis 25 ans sur la bande dessinée. Il a initié le prix France Info de la bande dessinée, d'actualité et de reportage qu'il pilote chaque année. Merci Jean-Christophe d'être venu à ce micro. On le voit bien, Daniel, que la bande dessinée est aujourd'hui devenue un outil à part entière pour rendre accessible l'histoire, la philosophie, les sciences, même la politique. L'actualité, non seulement c'est ludique, c'est accessible, mais en plus, c'est un marché qui cartonne, 130 000 exemplaires vendus avec...
Oh my God, je dis ceinture. Oui, j'assume cette blague, Jackie et Michel. Ah oui, qui m'a été soufflée par Leïla. Merci Leïla.
Oui,
blague. Non, qu'en fait, je voulais tenter face à un philosophe de renom et ancien ministre de l'Éducation. Car moi, j'en ai dans le froc, contrairement à vous, monsieur Guy. Petit trublion radiophonique basané.
Prouve-le.
Qui, une fois de plus, venez nous imposer votre plat préféré, à savoir la salade d'ineptie sur un lit de platitude assaisonné à l'eau tiède.
Avec un peu de ratatouille, quand même.
Sans goût, en tout cas. En plus, arrêtez de nous prendre pour des crétins. Vous en foutez qu'on parle d'histoire, de philo, de science dans les BD. Ce qui vous intéresse dans ces livres, c'est surtout que les dessins soient plus gros que les textes, ce qui n'est pas inutile quand on a votre niveau de lecture. Mais ce qui vous plaît surtout, c'est que c'est un marché qui cartonne. Un business qui brasse du fric, de l'oseille, des brosouf, hein, monsieur le producteur. Vous m'écœurez.
J'espère.
Il est temps que vous annonciez votre départ pour cette machine Afrique, cette station sans auditeur qui est Europe 1. Et puis, pour revenir au sujet que vous avez poussivement essayé d'aborder, à savoir celui de la démocratisation des savoirs, je suis contre. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur de partager ce point de vue avec un homme qu'on peut qualifier d'expert de la vie. Bonjour François.
Salut mon ami.
Que pensez-vous de la démocratisation des savoirs?
Mais c'est génial.
Non, en vrai.
En vrai, c'est de la merde.
Ah, merci.
De rien.
Et pourquoi?
Eh bien, parce que le savoir, c'est la mort de la vie, dans tout ce qu'il y a de plus explosif dans le talent du savoir attendre.
Ça ne veut rien dire, cette phrase.
Je sais, mais ça sonne trop bien. Et puis...
Et puis quoi?
Et puis, c'est vous qui avez écrit mon texte. J'y suis pour rien, si vous écrivez...
Si j'écris quoi?
Si vous écrivez de la merde!
Non mais au-delà de ma prose qui n'a aucun sens.
Eh bien le savoir ça pollue, ça fait réfléchir, et la réflexion empêche la rapidité d'action. Ça incombe la spontanéité et l'expression du génie éjaculatoire.
Ah bah voilà, vous voyez quand vous voulez. Merci François.
De rien.
Vous voyez, monsieur Guy, les experts les plus pointus, vous venez de l'entendre, sont formels. L'accessibilité aux différents savoirs, même en bande dessinée, n'est nullement un progrès. Une fois encore, j'en ai bien peur. Vous avez dit...
N'importe quoi. Merci à vous.
France Inter, Midi, la bande originale.
C'est la bande originale avec Léa Cadon-Boudedi, Albert Algou, Guillermo Iris, Daniel, ça c'est notre invité, Luc Ferry. Luc Ferry signe ou dirige, comment on vous présente d'ailleurs comme étant l'auteur, l'initiateur, le directeur de collection?
Non, c'est pas le directeur de collection, c'est moi qui écris les textes et qui est le récit, donc on est tous auteurs, voilà, dans une BD, c'est égalité dessinateur et auteur, oui.
Il y a les dialogues, le scénario.
Alors, les dialogues sont, la scénarisation des dialogues, si je puis dire, est mise en.
Bruno.
C'est Clotilde Bruno, et on relit tout ensemble parce qu'il faut que ça colle, il faut que ça ressemble exactement. Par exemple, les injures en grec, ils se disent...
Sac à vin.
Ouais, sac à vin, face de chien, cœur de cerf, ou des trucs complètement disparus. Donc sans...
Radio France, on s'en sert beaucoup.
Ouais, cœur de cerf, oui.
Ouais. Sac à vin, ça marche.
Non, mais quand on les voit, c'est normal. Mais cœur de cerf, non, c'est rare.
À chaque histoire de cette mythologie...
Je serais désagréable jusqu'au bout.
À chaque histoire de cette mythologie grecque, vous concluez par ce que vous appelez le mot de la fin, mais qui est plutôt une fin, une ouverture, une réflexion.
Oui, c'est une dizaine de pages, en fait, qui raconte d'abord les sources, parce que j'indique toujours quels sont les textes de référence qui m'ont servi pour raconter ce mythe. Et puis, le sens du mythe. Encore une fois, la mythologie a une puissance philosophique extraordinaire. C'est la matrice de toute l'histoire de la philosophie, et ces mythes ont du sens. D'ailleurs, sinon, c'est comme la Bible ou les évangiles. Ça tiendrait pas la route 28 siècles s'il n'y avait pas
de sens. Qui dit sens dit enseignement.
Il faut raconter le sens aussi.
Est-ce que ça va jusqu'à la morale de l'histoire?
C'est plus une spiritualité qu'une morale. Ce que je veux dire par là, c'est que la vraie question, c'est pas la question du bien et du mal, c'est pas tellement la question de la mythologie, c'est la question du sens de la vie, c'est la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels. Donc c'est une question qui est plus spirituelle ou religieuse que morale à proprement parler. Ils sont pas très moraux, ni les dieux sont des vrais salauds, et ni les guerriers qui sont immondes, même Ulysse, il est abject, Ulysse par moment. Il fait tuer des innocents exprès en racontant des mensonges, enfin. Donc c'est pas tellement des histoires morales. Il y a très très peu de morale dedans, mais en revanche, il y a énormément d'interrogations sur ce que c'est qu'une vie réussie.
L'idée de cette collection vous est venue à partir d'une histoire de la mythologie précise, ou c'était votre amour d'helléniste pour toute la mythologie?
La vraie base, c'est l'Odyssée pour moi, et la Théogonie d'Hésiode. C'est les deux textes les plus importants. C'est l'Odyssée d'Homère, beaucoup plus que l'Iliade, et puis c'est la Théogonie d'Hésiode. Et par ailleurs, l'idée n'est pas venue de moi, c'est mon ami Eric Orsena qui était dans le bureau de Glénat. Ils m'ont téléphoné tous les deux en disant voilà, okay, on vient d'avoir une idée, ce serait de mettre la mythologie en BD. Au début, je suis pas très BD, donc j'étais un peu réticent. Et puis je me suis dit que l'avantage que ça aurait, si les dessins étaient vraiment fidèles à ce qu'est le monde grec de l'époque, et ben c'est de nous faire rentrer un peu comme dans un film, mais avec un livre dans le monde grec de l'époque. Ça c'était. Et d'ailleurs, je continuerai probablement avec la mythologie juive, qui est très intéressante aussi.
Est-ce que l'une des contraintes aussi de l'exercice de la bande dessinée, et là je m'adresse aussi Albert Algou, éminent spécialiste de la bande dessinée, c'est de rentrer dans un format et une quantité de pages limitée. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes obligé de faire des ellipses, de raccourcir certaines histoires pour que ça puisse, entre les planches et le texte, rentrer dans une soixantaine de pages, même si en moyenne 80?
Ouais, entre 60 et 80.
Non, on a préféré augmenter le nombre d'albums. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va, plutôt que, par exemple, pour le, je crois que pour le l'Iliade et l'Odyssée, il doit y avoir 4
plusieurs
albums,
tomes.
Puis il y a plusieurs tomes. Et on s'est dit, ben, ça fait rien, on va faire 30 albums plutôt que de réduire les mythes et le récit des mythes. Non, donc le récit est complexe. Il est très détaillé, oui.
Chez Glénat, donc, cette série qui s'appelle La Sagesse des Mythes, Luc Ferry est venu nous la présenter. Sagesse et mythes, deux mots qui ne vont absolument pas à Daniel Morin, qui est maintenant là avec son nuque.
Aujourd'hui, les amis, je suis particulièrement heureux que nous recevions comme invité un homme de lettres, un homme fin, cultivé et espiègle à la fois. Oui, c'est une joie de vous...
Mais on s'en fout.
Qu'est-ce qui vous arrive, François me disait.
Oui, on s'en fout de l'invité, car il y a plus important.
Quoi donc?
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un... Michel Fugain, 75 ans, et toujours la maxi-pêche. Michel, si tu nous écoutes, bisous, poutou.
Ok, merci.
Non, pas poutou, arrêtez avec poutou.
Merci pour cette info de première bourre.
Je t'en prie, mon Dany.
Alors, je disais...
Michel Fugain, un chanteur immortel qui a signé quelques-uns des plus belles mélodies du patrimoine de la chanson française. L'oiseau, c'est l'envol. L'oiseau, c'est la liberté. L'oiseau, c'est le caca sur les statues.
Ça y est, je peux continuer?
Si tu veux.
Merci. Alors, oui, notre invité, prof de philo, ministre, il a non seulement la tête, mais il a aussi un corps de rêve. Cet homme...
On s'en fout.
Mais quoi encore?
Aujourd'hui, vendredi 12 mai, c'est la journée mondiale des... Des infirmières. J'adore les infirmières. Nu sous ta blouse, tu refais mon pansement. Continue, coquine, c'est très excitant.
Stop. Ça va pas, non?
Stop. Il a raison, Nagui, ça suffit maintenant.
Peu de respect.
Fasciste.
Et alors?
Et alors, si c'est comme ça, je m'en vais.
C'est ça, au revoir.
Michel Fugain, 75 ans, et que des fausses dents. Salut les amis, à bientôt sur France Inter, et dans la joie, bon comme un cookie, c'est François Bonsoir.
Parfait. Luc Ferry, pardon, je suis désolé, ces multiples interruptions, c'est agaçant, mais là, on va peut-être...
Morin.
Putain, Maréchal Ganache, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe qu'il a raison, l'autre tordu.
Raison pourquoi?
Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des infirmières.
Oui, je sais, et?
Et on devrait leur rendre honneur, ça sera la moindre des choses.
Pourquoi ça?
Parce que ce sont des femmes remarquables.
Puis-je savoir
en... Salut! Tais-toi! Silence. Je me souviens d'une en particulier... C'était au Tonkin, en 1954. Rampant et agonisant, j'arrivais péniblement à la lisière du village de Boum Boum Fuc. Amputé du croupion par le terrible général Sozéwan, j'avais perdu 30 litres de sang. J'étais à deux doigts de crever quand je fus pris en charge par une jeune beauté prénommée Sok Sok Boboun qui me transporta sur son dos jusqu'à l'hôpital local qui faisait aussi office de saloon, de bordel, de garage, de fumerie d'opium et de boucherie chevaline.
C'était quoi son métier, mademoiselle Boboun?
Sok Sok était à la fois garagiste, serveuse, caissière, bosse de pipe et infirmière.
Oh mais...
Tassez-vous,
Maréchal.
Respectez mes souvenirs. Une infirmière hors pair, délicate et géniale à la fois. Elle me banda le popotin avec des feuilles de bananier, feuilles larges et enveloppantes et humides, dans lesquelles elle avait placé des chenilles pour que ces petites bêtes grignotent le pus séché qui couvrait mon fion martyrisé.
C'est dégueulasse.
En trois jours, j'avais un fessier d'enfant, toujours amputé de deux tranches de fesses, certes, mais lisses et enfin guéries.
Wow.
Sans Sok Sok Boboun. J'en chiale quand je me souviens. Je serais mort d'une affreuse septicémie du séant. Et ça fait con sur une bio.
Merci, Maréchal, j'en conviens. Oh, bah, désolé, Luc Ferry, on n'a plus le temps de bavasser, vous et moi. Et c'est dommage, hein, j'avais des choses à vous dire. Je suis sûr que vous aussi, de votre côté, vous étiez ravi à l'idée de pouvoir échanger avec moi à l'occasion d'une conversation philosophique, sociétale et ludique à la fois. Enfin, tant pis. Enfin, pour la prochaine fois. Bon week-end.
Merci, Daniel Morin. Merci, Albert Hugo.
La bande originale. Sur France Inter.
Et voici le brouillon de culture de Leïla Kadoboudadi pour Luc Ferry.
Luc Ferry, je vous sors de la promo. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture. Et on commence avec un son pour vous.
Nous vivons aujourd'hui dans une société de la peur, nous avons peur de tout. Nous avons peur dans la vieille Europe du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, des micro-ondes, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de mille choses encore. Donc on est tétanisé d'angoisse. On a vécu aussi une déculpabilisation de la peur, et notamment sous l'influence des grands mouvements écologistes depuis les années 70, avec cette idée que la peur n'est plus une passion honteuse et infantile, une passion à surmonter, ce qui est le propre même du courage, de surmonter la peur, mais qu'elle est en quelque sorte le premier pas vers la sagesse.
Après le j'aime pas, il y a aussi, on pourrait faire la liste, j'ai peur de, ou de quoi ont peur les gens. C'est vous en 2013. Je voulais vous faire écouter ce son parce qu'on sort d'une période politique un petit peu tendue où beaucoup de gens ont eu peur justement. Et vous?
Peur de quoi? De l'élection présidentielle,
de l'extrémisme, de...
Non, j'ai jamais cru que Marine Le Pen serait élue, donc j'ai pensé que les journaux jouaient à se faire peur. Et donc je n'ai jamais pensé un millième de seconde que
c'était possible.
Que l'extrême droite allait gagner. Donc
pardon, Luc Ferry, ouais. Donald Trump, personne n'a jamais cru qu'il allait gagner, ni les journaux non plus.
Oui, mais on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Et donc, on voit le résultat...
Parce qu'en Angleterre, le Brexit a existé, les extrêmes montent aussi en Allemagne, monte aussi en Italie. Pourquoi on serait une poche, d'air comme ça?
Parce qu'on a une tradition révolutionnaire très ancienne, on a une tradition révolutionnaire extrêmement forte.
Et donc pour eux, c'est ça la révolution.
Non, le vrai phénomène étonnant, c'est les 20% de Mélenchon, c'est pas le résultat de Le Pen. Ça, c'est le vrai changement. C'est dans la vie politique française, c'est que le Parti socialiste est mort et qu'il est remplacé par deux nouveautés qui sont un social-libéral Macron à droite du Parti socialiste, si je puis dire, et Mélenchon à gauche. Mais j'ai jamais eu peur de ça. Non, la seule chose qui m'inquiète dans l'avenir politique, c'est le fait que les GAFA aujourd'hui, Google, Apple, Amazon, Facebook, les grandes compagnies américaines et l'équivalent chinois qu'on connaît moins en France, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, à eux 8 sont plus puissants que n'importe quel État. Oui. Et ils considèrent que les États sont des parasites, sont la plupart du temps des très 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 libéraux, très néolibéraux même, très ultra-libéraux. Et donc, ce qui m'inquiète le plus, c'est que dans ce contexte-là, la France est en train de décrocher totalement, notamment par rapport à ce qui va dominer le monde, à savoir les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et donc, par rapport à ces progrès technologiques extraordinairement puissants, pilotés encore une fois par ces 8 entreprises gigantesques, dont les capitalisations en bourse sont plus élevées que le PIB de la plupart des États européens. Et donc, je trouve ce qui est vraiment inquiétant, si quelque chose devait m'inquiéter, c'est le fait que par rapport à ça...
C'est que la France n'a pas au rendez-vous.
Voilà, ouais. Toute l'innovation aujourd'hui est américaine, Silicon Valley, chinoise, suisse et israélienne. Voilà, ce sont les 4 pays les plus innovants du monde et la France, aucun pays de l'Union européenne n'est dedans.
Et justement, en vous suivant sur Twitter, j'ai vu que vous relayez souvent ce qui touche à un homme, c'est Elon Musk,
oui.
Qui a fondé le célèbre mode de paiement PayPal, qui a créé la voiture électrique Tesla.
Oui. La plus grosse firme qui envoie les satellites dans l'espace, SpaceX,
voilà, c'est ça,
et l'Hyperloop.
Y compris les tuiles d'énergie solaire aussi.
Ouais, son idée, c'est de coloniser la planète Mars.
En 2025,
voilà. Ouais. Il rêve d'y installer, d'ici 12 ans, 80 000 personnes.
Voilà, oui. Et ce sera fait, d'ailleurs c'est pas du tout de la science-fiction, et c'est lié à un sujet qui me passionne depuis des années, c'est lié au fait que avec ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire un changement radical de la médecine, vous savez, la médecine depuis toujours elle était là pour réparer, pour soigner, et là on va passer à une médecine de l'augmentation de l'être humain, un petit peu comme on le fait pour des OGM par exemple, des grains de maïs, pour le rendre plus fort, plus puissant, plus résistant, pour le faire vivre plus longtemps. Et donc ce à quoi pense Elon Musk, mais Zuckerberg ou Sergey Brin, pareil, c'est-à-dire les patrons des grandes entreprises comme Facebook ou comme Google, comme Apple, ils pensent de la même manière, c'est qu'on va avoir beaucoup de centenaires, on va vivre beaucoup plus longtemps. D'où l'idée que la recherche spatiale revient au premier plan. Vous souvenez-vous, on n'en parlait plus pendant des décennies, on n'a plus parlé de la conquête de la Lune, tout ça n'intéressait plus personne.
On a arrêté d'aller sur la Lune.
On a arrêté, puis mon ami Claude Alec disait, mais ça sert à rien, c'est de la connerie d'envoyer des gens dans les... Ça sert... Et puis là, ça revient au premier plan, on parle beaucoup du petit Français qui est là dans
en
train de s'agiter dans les espaces interstellaires, et donc on y revient, et l'idée c'est que
la démographie va augmenter. Il revient la semaine prochaine, rassurez-vous, il revient la semaine prochaine.
Très bien, formidable. Et donc la démographie va augmenter. Et donc l'idée, c'est, on a commencé à coloniser les déserts déjà, c'est à installer d'énormes bulles hermétiques dans les déserts américains, y faire vivre. Il y a eu des petits Français qui ont vécu là-dedans pendant 6 mois ou 1 an. C'est complètement hermétique, hein, on peut pas sortir, pour préparer la colonisation de Mars en 2025. Et donc la conquête spatiale revient au premier plan à cause de l'augmentation de la démographie humaine.
Et quand Jacques Cheminade en parle, par exemple, c'était l'un des candidats à la présidentielle, il parle beaucoup de ça, de la colonisation.
Perçu, mais je suis désolé. Non, mais
il est reparti pour Mars d'ailleurs. Là.
Non, j'en suis pas perçu.
Vous partagez une idée avec lui, pour le coup, c'est ce qu'il avance dans son programme politique.
J'en suis ravi. Mais vous savez, quelquefois, quand l'horloge donne 12 heures et que tout le monde dit que c'est 12 heures, on peut partager les idées, même avec le Front National ou avec Cheminade. Mais non, c'est blague à part, ça devient très important.
Je ne sais pas quand même. C'est pas le Front National.
Non, je ne sais pas du tout qui c'est. Je suis désolé.
C'est un des 11 candidats.
Mais peu importe, c'est pas ça. Mais encore une fois, Cheminade n'est pas ma boussole dans l'existence, donc j'ai pas fait attention à ça.
C'est juste que c'est le seul candidat qui en a parlé pendant la campagne.
J'ai pas fait attention à ça, mais encore une fois, c'est vrai que c'est la révolution de la médecine aujourd'hui va entraîner très probablement un accroissement de la longévité humaine, et du coup cette question de la conquête spatiale revient pour cette raison-là au premier plan chez les candidats.
Et là, vous demandez si donc ces peurs-là dont vous parliez, est-ce que le problème c'est la peur, c'est ou les interdictions, puisque on n'a plus le droit maintenant, où il y a eu un principe de précaution, on n'a plus le droit de fumer, de conduire, de boire, de faire l'amour sans préservatif. Ça fait partie des conseils de prévention qui sont régulièrement donnés, mais qui enlèvent peut-être un libre arbitre.
Dans la sagesse grecque, on parlait de mythologie tout à l'heure, et d'une manière générale, dans toute l'histoire de la philosophie, la peur a toujours été considérée comme une passion honteuse et infantile. Pourquoi ? Parce que quand on a peur, par exemple, quand on est saisi par une phobie, la phobie, les petites algues au fond de l'eau, un ascenseur qui tombe en panne, la peur du noir quand on est petit, la peur d'un petit insecte, d'une petite souris, etc. On devient bête et méchant. Soyons clairs, la souris tue très peu chaque année, c'est pas un animal redoutable. Et donc, quand on est poissé par une phobie, c'est tout à fait irrationnel. On devient bête parce que c'est complètement irrationnel. Et je disais méchant, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, on devient complètement auto-centré, égoïste. Voilà. Et donc, la sagesse grecque, tous les sages grecs disaient... Le premier critère de la sagesse, c'est la victoire sur la peur. Le sage est celui qui est capable de penser et d'aimer. C'est-à-dire penser librement et d'aimer, c'est-à-dire de s'ouvrir aux autres. Donc de dépasser la peur. Et ce qui est très frappant dans la période contemporaine, c'est ça que j'évoquais dans le petit texte que vous avez, enfin le petit son que vous avez rappelé, c'est que sous l'effet de l'écologie politique à partir des années 70, la peur va redevenir, ou plutôt va devenir, parce que ça n'avait jamais été le cas avant, une passion de sagesse, si je puis dire. La peur est ce qui nous permet de prendre conscience des menaces qui pèsent sur l'environnement pour les écologistes. Et du coup, dans tous les grands livres de philosophie de l'écologie, on glorifie la peur en disant c'est ce qui nous permet de prendre conscience des menaces. Et donc la peur change de statut. Dans mon enfance encore, c'était une passion honteuse et infantile. Elle devient une passion de sagesse.
Oui, puis elle devient un objet aussi de manipulation de ceux qui pensent que les Illuminati, que tout est magouillé, organisé.
Absolument.
Et on s'en sert même à des fins politiques, voire commerciales aussi.
Tout à fait raison. La peur, quand les gens ont peur, on peut les manipuler. C'est-à-dire que la peur est un moyen de manipulation. Et tous les films éco-catastrophiques, par exemple, qui essayent de nous faire peur, nous mentant des cormorans englués, des sacs de plastique et des catastrophes qui d'ailleurs sont réelles, ça permet de manipuler les gens. C'est-à-dire la peur est un levier extraordinairement puissant. Et dans la presse, dans la radio en particulier, il faut faire très attention à ça. Ce qui permet d'avoir de l'audimat, c'est ce que Tocqueville appelait les passions démocratiques. Il n'y en a pas beaucoup, elles sont rarement belles. C'est l'indignation, la colère, la jalousie et la peur. C'est ce sur quoi fonctionne la radio. Il y a heureusement aussi l'humour et la fraternité, ça existe aussi, mais la plupart du temps, c'est indignation, colère, peur et jalousie. Hein, quand le type dit « je n'aime pas les riches », généralement, c'est le pognon des autres qu'on n'aime pas. Le sien, on se fait une raison, on s'y habitue volontiers. Et donc, la jalousie, c'est très puissant, la colère, la peur, c'est très puissant, et ça permet de manipuler les gens. Et c'est, pardon de le dire, c'est les passions démocratiques qui sont le carburant des médias aujourd'hui, en particulier des médias chauds comme la radio.
Leïla ?
Eh bien, n'ayez plus peur, Luc Ferry, je vous fais un cadeau pour
finir.
Ah,
mais quelle gentillesse, enfin. Parcours,
oui,
dites-moi.
Oui, tout arrive, vous voyez, ça se mérite. Chez Gallimard, je vous offre un roman, un très très beau roman, attention. Attention, on parle de littérature, on peut laisser nos différents côtés, la littérature ne souffre pas
lu,
ça.
C'est très bien.
C'est vrai.
C'est Croire au merveilleux de Christophe Honoré Dibiot.
Ah, je connais très bien Christophe.
Vous connaissez cet auteur.
Mais j'ai pas lu le livre.
C'est son dernier, il vient de sortir, c'est l'histoire d'un homme, César, qui est triste, qui est seul, il vient de perdre sa compagne, et il rencontre une étudiante en architecture l'histoire grecque. Et cet homme va être sauvé par quoi ? Par les mythes. On plonge, on baigne ainsi avec cette histoire.
Les mythes et la mythologie, pas les insectes.
C'est ça. Être sauvé par les mythes.
J'avais peur que quelqu'un la fasse aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Être sauvé par la mythologie, être sauvé par cet univers, ça ne pouvait pas mieux tomber pour vous, cher Luc Ferry.
Vous êtes un ange doux.
Et moi aussi, j'ai un cadeau.
Albert aussi, un cadeau pour vous.
La BD et la philosophie peuvent faire bon ménage, on en a parlé. C'est une BD de Charles Berberian, À la dérive, chez Hachette. C'est un petit traité de philosophie. À chaque fois, ce sont, si vous voulez, un dialogue entre deux grands penseurs nordiques, un ours blanc et un pingouin, qui discutent des grands problèmes, la religion, l'existence, le désir, la justice et le droit. Et il y a une alliance du dessin en une page, il utilise toutes les possibilités de la page unique, avec un graphisme tout à fait formidable, et des réflexions qui s'appuient à chaque fois sur des citations de philosophes. Alors c'est Kant, Montesquieu, Sartre, Diderot, et un de vos confrères ou concurrents, Michel Onfray par exemple. C'est remarquable, c'est Charles Berberian.
À la dérive.
C'est un grand auteur de BD.
Vous connaissez les blagues d'Alphonse Allais sur les ours blancs, non ?
Rappelez-la nous.
Ah bah, tous les ours naissent bruns, mais en vieillissant, c'est comme vous, ils blanchissent. Bon.
Tout à fait.
Et donc, on ne sait pas pourquoi les scientifiques s'interrogent. Ils se dirigent toujours vers l'Arctique. Et c'est là qu'on dit qu'ils sont à l'Arctique de la mort.
Merci. Voilà. Voici Erwan avec Curling dans la bande originale.
T'épouses la street, la tête dans le wind. T'as fait du self-control, ton way of living. Pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling, t'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies. Et dandy, t'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise. Et balaient la matière grise comme au curling. Dans ton monde on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz, descends grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur et lui.
C'était Erwan avec Curling dans la bande originale. Bande originale avec Luc Ferry. Luc, on a parlé de la sagesse des mythes chez Glénat. Je voulais aussi que nous évoquions l'encyclopédie philosophique où vous traitez avec des livres, livres CD, et là aussi plusieurs volumes, décidément. Vous avez beaucoup de volumes.
Aussi, oui.
Voilà. Les mots de la philo, l'encyclopédie, amour, altruisme, a priori, abeille, agnostisme. Alors, on me l'a glissé au dernier moment pour que j'en parle, mais je n'ai pas eu le plaisir ni de les écouter ni de les lire. En un mot, chez Plon, ça consiste en quoi ?
Bah, c'est une encyclopédie des mots de la philosophie, donc je prends
des définitions
de A jusqu'à Z. C'est pas vraiment des définitions, c'est plutôt une espèce de cours de philosophie. En fait, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, pour être franc, c'est une espèce de cours de philosophie. Ce sont les cours que je fais au Théâtre des Mathurins tous les jeudis, d'ailleurs. Et donc, ce sont des cours sur des notions où je mélange à la fois l'histoire de la philosophie, donc je raconte ce que les grands auteurs ont dit de ces notions, et puis j'essaye d'en tirer justement l'intérêt philosophique. Alors, il y a
c'est
notamment
publié chez Plon, oui.
Livré sur le féminisme, où je raconte par exemple l'histoire des deux féminismes, qui est absolument passionnante, le féminisme américain, différentialiste, et puis le féminisme républicain que j'aime beaucoup, qui est celui d'Elisabeth Badinter aujourd'hui, pour qui j'ai grande estime et admiration. Et donc je raconte comment par exemple ces deux féminismes se sont opposés très très violemment dans les années 60. Donc c'est pour vous dire que c'est à la fois l'histoire et aussi les enjeux de ces grandes notions
comme la démocratie aussi, et pas
comme la démocratie. Si, voilà, il y a tous ces mots de la philo, mais aussi les mots de la vie quotidienne, y passent.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Ah, déjà, désolé pour la décence, l'estime de soi, la foi en l'avenir, la vieillesse ecclésiastique triomphante. On a assisté ce matin au naufrage du père Albert, qui a mélangé ses fiches chez Luc Ferry et Élise Lucet. Mon père, je crois, sans vouloir vous forcer la main, qu'il est grand temps de mourir.
Il est temps.
Désolé,
au moins de se retirer.
Désolé pour
moi-même l'extrême onction.
Désolé pour Nagui qui a découvert ce matin. matin que Mars n'était pas qu'une barre chocolatée, qu'Athéna n'était pas qu'une marque de slip. C'est ça aussi notre mission du service public. Ouais, on est là pour éduquer l'animateur quand il est analphabète, inculte tous les deux, comme c'est le cas aujourd'hui. Eh oui, on n'est pas sur Europe 1, merde. Désolé pour les amoureux de Leïla, j'ai cru comprendre qu'elle avait fait plutôt une belle rencontre ce matin et qu'elle n'était plus dispo. Elle m'a dit au creux de l'oreille, la vache, je suis chaude comme un panini. C'est tombé, les gars.
Au moins tout ça.
Juliette, Arnaud et Arthur Junio seront nos invités lundi dans la bande originale. Merci Luc Ferry, portez-vous
bien. Merci à vous surtout.
Bonne journée, ce sont les carnets de campagne maintenant de Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.
Merci Nagui, merci la bande et à lundi.